Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour. Bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Le nouveau confinement décidé par le gouvernement nous empêche de nous réunir, de nous rencontrer. Comme moi, vous vous posez de nombreuses questions. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans cette période épidémique de Covid. Aujourd'hui, avec Louis Fouché, nous allons parler du confinement, de ses effets secondaires, de ses effets collatéraux. Louis Fouché est médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception de la PHM à Marseille, membre du collectif Re-Info-Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants et universitaires. Bonjour Louis, merci d'avoir accepté mon invitation. Quel est ton point de vue de médecin hospitalier? Que peux-tu nous dire de cette crise, de cette épidémie, de tout ce que l'on entend? C'est à toi.
En fait, n'a pas interdit le médicament, n'a rien fait de spécial. Dominique Maraninqué est arrivé et a dit bah, il est temps de faire un peu bon ordre tout là-dedans. Comment ça se fait que dans les commissions, les gens viennent de l'industrie pharmaceutique et puis ils viennent décider ensuite de quel médicament est permis, puis ils ne se réunissent pas de manière collégiale, il n'y en a qu'un seul qui rend son avis. Enfin bref, il a soulevé énormément de lièvres dans ces agences qui décident un peu de notre destin, de ce qu'on peut utiliser ou non comme médicament. Il s'est rendu compte que bah, c'était un peu comme dans l'agro-industrie, hein, comme ce que vous connaissez peut-être chez Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta. C'était la même affaire, quoi. C'est en gros des conflits d'intérêts à tous les étages, et une espèce de corruption systémique majeure, en fait. Et donc, il a essayé de faire un peu d'ordre là-dedans, à sa mesure. Et donc, il a rendu obligatoire le fait que les médecins, normalement, signalent leurs conflits d'intérêts au début de leurs interventions. Et il a obligé les industries de santé à colliger combien ils donnaient aux médecins. Ça a donné une base qui s'appelle Transparence Santé. Et Transparence Santé, c'est quelque chose de pas très accessible pour le grand public. Mais si vous allez sur covidinfo.net, covidinfo au pluriel, vous avez un calculateur en haut qui permet de rentrer dans la base de données et de savoir. Donc, si vous voulez jouer en même temps que vous me regardez, à savoir combien j'ai de conflits d'intérêts, vous allez trouver à peu près 450 euros qui sont en fait les staffs du service. C'est-à-dire mon chef de service, toutes les semaines, il invite un labo, enfin, puis qui paye un goûter. Et en fait, à chaque fois, on est noté, même si je n'y suis pas, en fait. Et quand j'ai compris ça, qu'à coût de 15 euros, j'arrivais à 450 alors que j'y étais même pas et que je ne voulais pas de leur goûter, en fait, je m'en fiche. Et ben j'ai dit stop, quoi. Donc depuis 2 ans, voilà. Mais j'ai un collègue qui est lui aussi à l'assistance publique dans une réanimation beaucoup plus en centre-ville, encore plus en centre-ville que moi, je suis en centre-ville. Vous verrez peut-être qu'il a 145 000 euros de conflit d'intérêts. Ça, c'est que le dessus de l'iceberg. Parce que par ailleurs, une industrie de santé peut avoir des conflits d'intérêts, donner de l'argent aux médecins autrement, puisque ce sont des multinationales, ils peuvent donner de l'argent par le biais de filiales hôtelières ou de filiales qui demandent un conseil scientifique à quelqu'un, mais qui n'a pas à voir directement avec l'industrie du médicament. Et ceux-là n'apparaîtront sous aucun radar. Vous n'avez pas moyen de savoir. De même, il peut y avoir des intéressements directement aux finances de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire avoir des stock options et éventuellement être rémunéré sous la forme de dividendes. De même, ceci, vous ne le verrez jamais. Or, ça concerne des sommes astronomiques pour certains médecins qu'on appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire ceux qui sont justement recrutés par l'industrie pharmaceutique parce que leur voix est entendue dans les conférences, etc. Et ceux-là ont des niveaux de conflit d'intérêts qui dépassent l'imagination. Si vous prenez Sir Patrick Vallant, je parle de l'Angleterre à dessein pour ne pas m'attirer de problèmes en France, mais Patrick Vallant, c'est le président du conseil scientifique anglais. Le conseil scientifique, c'est l'équivalent chez nous, hein, vous savez, de Delphrécy, de ceux qui décident de notre destin actuellement, hein, ceux qui décident si vous êtes confiné, pas confiné, si vous êtes masqué, pas masqué, si vous, etc. Donc, c'est des gens qui ont une puissance considérable en vrai. Eh bien, ce Sir Patrick Vallant, il a touché, il a 600 000 livres sterling d'actions dans une entreprise qui s'appelle GlaxoSmithKline, une entreprise qui fait des vaccins. Tiens, tiens, bizarre. Et il a reçu entre 2012 et 2018, tenez-vous bien, pour 5 millions de livres sterling de dividendes. Et le type vient décider de votre destin sur la politique sanitaire anglaise. C'est du délire, en fait. C'est proprement du délire. Et en fait, on est dans ce système-là qui est pourri jusqu'à la moelle. Et c'est vrai pour la médecine, mais c'est vrai dans la publication scientifique, c'est vrai dans l'industrie, dans l'agro-industrie, c'est vrai dans les décisions de restauration collective, etc. Bref, on a un vrai problème. Le poisson a pourri par la tête. Et c'est un vrai problème pour ce qui décide de notre destin. Donc voilà, pour les conflits d'intérêts, on peut en parler encore plus longuement si vous voulez. Mais en gros, moi, je suis en dehors de ce système-là. Et quand je vous parle, je prends plutôt plus de risques que de bénéfices, en fait. Donc, je le fais pas ni par ego, ni quoi que ce soit. C'est que je pense qu'il est nécessaire actuellement qu'on parle de ces choses-là et qu'on parle de ce qui va pas dans la politique sanitaire du Covid-19. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. Et si vous voulez, dans RéinfoCovid, si on est plus de 300 chercheurs, médecins, etc., universitaires, je ne suis pas le seul à flairer que quelque chose ne va pas. Par contre, vous allez entendre dans les médias les leaders d'opinion. Et les gens comme moi, ou comme Vincent Pavant, ou comme Ariane Bileran, enfin, ou d'autres qui font partie du collectif, finalement, vous allez très peu les entendre. Et ça, c'est un autre pan de la conférence de ce soir, c'est celui de la confiscation de la capacité narrative, c'est par la propagande en fait. Et ça, c'est Noam Chomsky qui en parle en premier, hein. Vous savez, ce professeur de grammaire américain qui met en évidence ce qu'il appelle manufacturing consent, c'est-à-dire la fabrique du consentement dans les démocraties libérales modernes par les médias de masse et l'utilisation de tous les outils de neurosciences en fait. Les fruits frelatés, les fruits nauséabonds des sciences cognitives qui ont compris comment marche la grammaire du cerveau des gens et qui sont capables d'y mettre des messages de manière hypnotique, en fait. Voilà. Et qui vient finalement des capacités narratives au départ d'Hollywood, qui invente cette capacité à vous faire pleurer, à vous identifier à un héros, à ensuite vous faire rire dans la même heure et demie de narration. Et donc, ils ont une capacité narrative, un art du roman, comme on dit en littérature, qui est proprement époustouflant. Sont capables de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, en fait. Et ils ont une puissance de publication qui est très, très loin de celle de Gutenberg. Déjà, Gutenberg avait mis beaucoup de problèmes dans la politique de son époque. Mais là, en plus, ceux qui maîtrisent les médias de masse, en fait, sont capables, en gros, de faire ce qu'ils veulent à une société. Et ce qu'on appellera plus tard l'ingénierie sociale. Voilà, bon, ça, c'est en guise d'introduction, si vous voulez. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Nous sommes dans un contexte d'ingénierie sociale massive où les discours alternatifs sont passés sous le boisseau et où le débat démocratique et scientifique est absolument confisqué par des gens qui ont des conflits de pouvoir ou d'argent. Et c'est toujours la même histoire dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est cette espèce d'appétit des pervers pour le pouvoir et l'argent. Les gens comme vous et moi, en fait, sont normaux et s'ils ont assez d'argent pour vivre, ça leur va, quoi. Globalement, ils aspirent à la paix, à la joie, à la relation avec l'autre, à l'amour. L'argent, le pouvoir, bon, c'est plutôt des emmerdes, quoi. Mais non, il y a quelques pervers qui sont des gens qui sont malades, en fait, au fond, qui ont un trouble émotionnel très profond et psychiatrique et qui se retrouvent toujours dans les sphères du pouvoir et dans les collectifs. Dans le collectif qu'on a, on est très en lien avec un collectif qui s'appelle « Laissons les médecins prescrire ». Et dans ce collectif, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Violaine Guérin, qui est médecin et qui travaille sur les violences faites aux femmes. Et elle décrit que les personnalités des gens qui sont au pouvoir sont les mêmes que ceux qui font de la violence aux femmes, qui violent les femmes, quoi, globalement. Et qu'effectivement, quand on creuse, les gens qui sont au pouvoir ont quasiment tous des casseroles de ce genre-là. Donc voilà. Bon, Voilà pour l'introduction. Je me situe dans un champ contestataire, clairement, de la politique sanitaire. Et ça va peut-être pas être du goût de certains. J'ai pas forcément raison. Hein, donc, vraiment, je prétends pas avoir raison. Je prétends essayer d'ouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique dans toutes ces affaires-là. D'où je viens, c'est important pour vous de savoir d'où je parle, parce que je parle pas de complètement nulle part. Je me suis occupé, donc je suis réanimateur à Marseille, et donc je me suis occupé de patients Covid et je m'occupe de patients d'hématologie, gens qui ont des lymphomes, des leucémies, et qui se compliquent, qui ont des maladies graves là-dessus, et qui sont des grands brûlés aussi par ailleurs. Puis après, plein d'autres patients de réanimation, mais par la force des choses, les patients Covid. Et donc, je me suis occupé de cette crise. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité associative depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé de CNV, de communication non violente. Puis, je me suis occupé de gouvernance avec l'université du Nou à Chambéry. C'est-à-dire d'essayer de travailler sur des gouvernances qui soient à la fois l'individu émergé, parce qu'il y en a besoin de sa lumière, mais à la fois soit horizontale dans la raison d'être. C'est-à-dire que l'individu soit au service du groupe et que le groupe permette à l'individu d'émerger. Et pas séparer l'un ou l'autre, c'est-à-dire pas quelque chose de strictement horizontal, parce qu'il nous semble que c'est une illusion, pas strictement vertical, parce qu'il nous semble que c'est une illusion aussi. Donc ça, c'est avec l'université du Nou de Chambéry et avec les Colibris, qui est un mouvement, on va dire, environnemental, mais aussi d'écologie intérieure, qui présuppose qu'il faudrait déjà être aligné un peu personnellement pour espérer un changement en face. Si tu veux la paix là-devant, déjà fais la paix là-dedans, quoi, parce que sinon, ça marchera pas. Ça, j'ai travaillé pendant 2 ans avec les Colibris, et donc j'ai quelque part, je suis connoté écolo, si vous voulez, même si je ne suis pas du tout dans l'écologie politique, au sens politique, quoi. Mais par contre, dans l'écologie de terrain, on va dire, essayer de faire un monde meilleur ensemble. Donc là, c'est là d'où je viens. Et puis, moi, j'étais plutôt parti pour partir à la campagne et vivre à la campagne tranquillement en faisant anesthésiste à mi-temps et en ayant une exploitation en permaculture bio, si vous voulez. Puis, je suis resté parce que ma femme est chercheure et qu'elle est bien là où elle est à Marseille. Et en fait, je me suis pris dans la tourmente du Covid et je me suis dit, bah, peut-être que ma voix peut être entendue, en fait, et que j'ai quelque chose à dire. Donc, j'ai ressenti comme une espèce d'appel à la résistance. Je me suis dit, mais si je laisse faire, là, je serai juste en colère derrière mon écran, je serai triste. Bah, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de mettre en lien les gens et d'essayer qu'on ait une voix divergente, en tout cas, et qu'on réouvre des espaces de dialogue. Et donc, on s'est vraiment mis dans une logique de résistance. Le collectif, on travaille le soir tard. On fait des réunions Zoom, comme ce soir, mais jusqu'à 2h du matin. Pendant ce temps, on travaille quand même. On a tous des enfants ou une famille ou une vie. Et en fait, on essaye d'être discret, d'être sous les radars. Et puis moi, je suis le porte-parole, donc je suis le gars qui est monté sur la barricade et qui va s'en prendre plein la figure. Et j'espère qu'on va être nombreux, parce que si je peux éviter de rester tout seul sur la barricade, j'aime autant, je ne tiens pas à me faire décaniller. Voilà. Mais voilà où on en est. Donc, on est tous partis du constat qu'il y avait un problème avec la politique sanitaire. On ne l'a pas forcément perçu au même moment et on ne l'a pas perçu forcément de la même façon, mais on a perçu qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, quelque chose qui puait dans cette affaire. Et la première chose, c'est un hiatus, c'est-à-dire peut-être une distance entre la narration médiatique et gouvernementale et la réalité de ce qu'on vivait en réanimation, qui était de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'on nous racontait que c'était la fin du monde, quoi, que globalement, il fallait avoir peur de tout, qu'il fallait vivre masqué, etc. Mais je vous invite à venir dans le service, et vous allez voir à quel point nous, on est assez décontractés, en fait, en vrai, vis-à-vis de la transmission. On fait ce qu'il faut, je veux dire, on a du matos et tout pour aller dans les chambres, mais quand quelqu'un est intubé, par exemple... Bon, ouais, on met un peu un masque et encore, voilà. Mais des gants, ben on fait ce qu'il faut, je veux dire. Mais il n'y a pas d'angoisse, si vous voulez. C'est pas Ebola, déjà. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler sur 4 champs. C'est-à-dire d'abord reprendre de l'intelligibilité sur la réalité. Et recevoir de la vérité. Donc, il y a une première chose que je peux vous dire, c'est que cette infection, si elle sature effectivement les services de réanimation et l'hôpital public, elle n'est pas si grave que ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, attends, pourtant il y a des morts, pourtant j'ai des gens autour de moi qui sont morts. J'enlève pas ça, j'ai beaucoup d'empathie pour les familles des gens qui sont morts et je ne veux pas dire que c'est rien. Hein. Attention, ne travestissez pas, je vous parle de manière épidémiologique. Après, chaque décès, c'est une épreuve pour chaque famille et on essaye d'être là et d'accompagner ça, voilà, enfin, quelle que soit la cause. Donc, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je vous dis simplement que, en termes de létalité, Et en termes de mortalité globale, on est entre la 9e et la 14e épidémie depuis 1945 en volume. Ça veut dire que ce n'est même pas the big one, si vous voulez. Et que par contre, en termes de conséquences psychosociales, là, on est sur du très, très lourd. Aujourd'hui, les chiffres que vous voyez à la télévision de contamination, etc., on vous parle de contamination ou de cas. Déjà, c'est très pervers de vous parler de ça. Parce qu'en fait, vous avez déjà eu un petit point par Hélène Banoun sur les tests, je crois. Mais il faudrait déjà vous dire ce que c'est que les tests. En fait, quand vous avez 45 000 tests positifs par jour, c'est des tests simplement. Ça veut dire qu'on a mis un écouvillon dans le nez, on a cherché s'il y avait des petits morceaux de SARS-CoV-2, de ce virus. Mais si aujourd'hui, je testais tout le monde à herpès dans la population, j'aurais une épidémie aussi. Donc, parce que tout le monde l'a, en fait, on vit avec. Donc après, est-ce que c'est signifiant? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il y a une autre question, c'est que ces tests, en plus, ils ne sont pas... Je vais essayer de vous m'arrêter si vous ne comprenez rien. Mais ces tests, c'est ce qu'on appelle des RT-PCR, des rétro-transcriptables TCR, real-time PCR aussi, c'est des PCR en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un écouvillon dans le nez avec peut-être des petits fragments de virus, des petits fragments d'ARN viral. Parce que l'ARN, c'est du matériel génétique qui permet de coder pour une protéine. Et on cherche donc ce message, quoi, ce code qui permet de coder pour la protéine, pour le virus. On le rétro-transcrit, puis ensuite, on essaye de voir si on arrive à le multiplier. Donc, on essaie de voir s'il y en a. Et il y a des seuils, en fait. Il y a des seuils de sensibilité qui ne sont pas les mêmes en fonction des tests. Actuellement, en France, on a plus d'une dizaine de kits différents pour tester qui n'utilisent pas les mêmes amorces, c'est-à-dire pas les mêmes gènes cibles. Donc, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. En fait, chacun de ces gènes, chacun de ces kits, il cherche des petits morceaux de virus différents. Ce n'est même pas le même endroit qui cible du virus. Et en plus, ils ont des sensibilités qui parfois ne sont pas les mêmes ou qui ne sont pas rendues. C'est-à-dire qu'on va vous donner un test positif, par exemple, mais... Nous, on n'en fait rien, en fait. Parce que c'est bien de savoir à quel point il est positif. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui-non. Et c'est ce qu'on appelle les CT, les cycles de transcriptase. C'est-à-dire combien de fois on a fait tourner la PCR avant qu'elle commence à répliquer de l'ARN. Plus il y en a au départ, plus il y a de virus, plus ça va très rapidement répliquer. Alors que moins il y en a, plus il va falloir attendre longtemps, 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 longtemps pour trouver un tout petit quelque chose et là, éventuellement, avoir une courbe qui commence. Ça, c'est ce qu'on appelle les CT. Donc, plus ils sont hauts, plus ça veut dire qu'il y a très peu de virus dans le prélèvement. Et il y a certains laboratoires qui considèrent qu'on rend négatif le prélèvement si on est au-dessus de 40 CT, c'est-à-dire très, très loin dans la réplication. À Marseille, nous, c'est 35 CT avec l'IHU. Dans d'autres laboratoires, en Espagne, c'est 27 CT. En fait, de quoi on parle? Ça veut dire que tous ces tests, vous ne savez même pas ce qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas unifiés, quoi. Donc, on vous dit, il y a tant de cas, mais vous ne savez pas, en fait. L'autre chose, c'est que même en ne sachant pas, dans ces tests qui sont positifs, l'immense majorité, plus de 97% de ces tests sont des gens asymptomatiques ou bénins. Ça veut dire qu'ils ont vaguement des courbatures ou peut-être un peu de fièvre pendant un jour ou deux. Mais c'est tout. Ce n'est pas des cas graves. Or, ce qu'on appelle COVID-19, ce sont des cas graves. C'est la maladie du poumon induite par le SARS-CoV-2. Donc, le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Et COVID, c'est le nom de la maladie. Donc, quand vous dites qu'il y a 40 000 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui, c'est juste pas vrai. C'est une manipulation des mots. Il y a 40 000 tests positifs, dont 97 à 99% sont asymptomatiques ou bénins. OK. Donc, ça veut dire déjà, en termes de volume, on est en train de vous faire peur en permanence. Et on va revenir sur cette narration de la peur et de la culpabilité. Parce qu'en fait, tous les régimes totalitaires utilisent une narration de la peur et de la culpabilité. Que ce soit les Khmers rouges, les Khmers bleus, les Khmers verts, que je connais bien pour en avoir fait partie pendant un moment, que ce soit les Khmers blancs sanitaristes, en fait, c'est le même déferlement totalitaire. Et on est en plein déferlement totalitaire et c'est ça dont on doit avoir peur. C'est absolument pas du virus. Le virus, il court sur Terre et les virus, ils courent sur Terre pour qu'on les attrape. Ils courent sur Terre pourquoi? Pour qu'on fasse notre thermostat immunitaire vis-à-vis d'eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vit en interaction avec le monde, on vit en interaction les uns avec les autres, on va se frotter, on va pas être d'accord, et c'est bien, c'est comme ça, on peut pas se protéger de tout, on peut pas être dans une bulle Ça, c'est le rêve américain, quoi, d'être dans une bulle où on est tout protégé de tout. On a une assurance pour aller pisser, un casque pour aller faire du vélo, etc. Non, mais ça, c'est un idéal programmatique de la vie qui est complètement contre la vie, qui empêche la vie. La vie, c'est de rencontrer l'autre et de rencontrer l'autre au sens large, les arbres, tout ce qui vit, en fait, le vivant au sens large, et d'être dans une négociation, une diplomatie avec le vivant. On vit tous au même endroit et puis ben, on est en diplomatie avec ce vivant. Et ben, c'est pareil avec les virus. Les virus, ils sont faits exprès, c'est de l'information qui circule pour que vous fassiez votre thermostat immunitaire. Et c'est très compréhensible chez l'enfant, ce que je vous dis là, ce qu'on appelle les maladies adaptatives. Bah oui, l'enfant, il fait telle ou telle maladie, et puis après, bah, en général, et puis elle est pas grave. Il fait les oreillons, c'est pas grave. Il fait la varicelle, c'est pas grave. Par contre, s'il l'a fait plus grand, là, c'est un peu plus grave. Ça veut dire qu'il a pas fait son thermostat immunitaire et que d'un coup, il va se retrouver à se prendre dans les dents un truc où il a pas fait son niveau de relation de ses globules blancs avec ça. Et c'est vrai chez l'adulte aussi. On passe son temps normalement à avoir une petite chiasse, un peu le nez qui coule, etc. Et puis, en fait, on fait jamais de maladie grave. Et ça, c'est très bien. C'est très sain. L'idée qu'il faudrait jamais rien avoir, être protégé de tout, c'est une fausse idée. C'est pas vrai. C'est pas comme ça la relation au monde. Parce que si vous faites jamais rien, vous êtes comme les Indiens qui se chopent la variole des conquistadors. Bah, on vous amène un truc que vous avez jamais rencontré depuis votre enfance et poum, là, il n'y a plus personne. Donc, l'idée de ce virus, c'est que pour l'immense majorité des gens, ils vont faire leur thermostat immunitaire avec lui. Et que ce n'est pas grave, qu'en fait, même c'est bien, c'est souhaitable. Donc, il ne faut pas s'en protéger. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'il y en a quelques-uns qui vont faire des formes graves. Ah oui, mais qui ? Mais en fait, on les connaît. On sait qui c'est. Nous, on les a vus en réanimation. Au début, on ne savait pas. Mais après, on a vu. C'est toujours les mêmes. C'est les gens qui ont plus de 85 ans. C'est les gens qui ont une maladie inflammatoire avec ou dysimmunitaire, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le lupus, comme des choses comme ça, qui sont sous corticothérapie ou maladie immunosuppressive. Ou traitement immunosuppresseur, pardon. Voilà, le rituximab, des choses comme ça, des médicaments qui, en gros, dépriment leur défense immunitaire, qui font qu'ils sont toujours un peu dans une relation avec le monde qui est un peu plus farouche. Ce sont les gens qui sont avec des cancers ou des cancers métastatiques qui évoluent, parce que c'est pareil, les cancers en eux-mêmes, et puis parfois les traitements qui vont avec, les chimiothérapies, bah, dépriment votre niveau d'immunité, votre capacité de vivre avec le monde. Ce sont les gens qui sont dénutris sévèrement, parce que c'est pareil, ou qui sont sous morphinique au long cours, voilà, qui ont de la morphine, parce que c'est pareil, ça déprime l'immunité. Et puis, ceux-là, ils sont vraiment à risque, effectivement, de faire des formes graves. Et donc, il faut les protéger. Et puis, vous avez des gens qui sont obèses, hypertendus, diabétiques. Et ceux-là, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose d'avoir l'obésité, du diabète, de l'hypertension. Mais en fait, si, quand même, ce n'est pas rien. Ça veut dire... Notre société, elle n'est pas en train de dériver dans sa normalité. Parce qu'on dit, ouais, c'est de plus en plus de gens, bah, c'est ça qui est normal. Non, en fait, notre société, elle est de plus en plus malade. À force de bouffer du sucre toute la vie et d'essorer votre pancréas, bah, vous n'avez plus de pancréas à 55 ans et vous vous trouvez avec un diabète. À force d'être stressé, de boire du café tout le temps, de fumer des clopes pour compenser le niveau de stress qu'on vous envoie en permanence, vous êtes hypertendu. Bon, ce n'est pas la seule cause, hein, mais c'est quand même une des grosses causes. Et puis, à force de mettre... du sucre partout, des produits dégueulasses par l'industrie de l'agroalimentaire dans la bouffe, bah vous êtes vous, et puis d'avoir une espèce de vide relationnel parfois, ou en tout cas de ne pas se trouver comme il faut, parce qu'on explique tout le temps que vous n'êtes pas comme il faut depuis votre tendre enfance, votre papa, jusqu'après la société qui vous dit mais vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes compensé peut-être en mangeant un peu trop, etc. Et puis de fil en aiguille, comme l'industrie met des trucs hyper toxiques dedans, vous allez vous retrouver obèse, avec des difficultés en plus à revenir en arrière. Donc ces gens-là, ils sont fragiles. Et ceux-là, on peut les protéger de manière focale et en prendre soin. Parce qu'en fait, c'est ça une société, c'est prendre soin de ceux qui ont besoin dont on prenne soin. C'est pas faire chier tout le monde en culpabilisant tout le monde. Donc, c'est une maladie qui est pas grave en termes de volume global. Et ça, c'est ce que je vous ai dit sur les tests et puis sur le nombre de gens qui font des formes graves. Mais c'est vrai aussi sur la mortalité. Alors, c'est difficile à comprendre parce que vous pouvez avoir un pic de mortalité à un moment, mais qu'ensuite cette mortalité, elle soit rattrapée par une sous-mortalité plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui étaient dans des EHPAD, par exemple, et qui sont morts du Covid, bah peut-être qu'en fait, ils sont morts du Covid, mais ils seraient morts 3 mois après d'une grippe, ou 4 ou 5 mois après d'autre chose, d'une piélonéphrite. Et qu'en fait, ils sont morts au moment du Covid, mais un petit peu comme vous savez, c'est mort de la canicule qu'il y a eu à l'époque. Ben en fait, on n'a pas retrouvé beaucoup de surmortalité parce que c'est des gens qui, de toute manière, avaient entre 3 et 9 mois à vivre. Et ça a fait survenir les choses un peu plus tôt que prévu. Mais au fond, ça ne change pas grand-chose quoi, en termes de mortalité globale. Ben pour eux, ça change quelque chose, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais en termes de mortalité globale, ce ne sera pas lisible. Il y a autre chose, c'est que pendant le Covid, il y a eu plein de morts qui sont morts du Covid alors que pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 32 000 morts sur la première épidémie. De mars-avril, à peu près. Hein. Et ben dans ces 32 000 morts, il y a 12 000 morts en EHPAD. Ben déjà, ceux-là, vous ne savez pas de quoi ils sont morts, parce qu'on n'a pas testé. Et là-dedans, il y en a plein qui sont morts d'autres choses. De pneumonie bactérienne, de cancer, d'infarctus. Et en fait, vous ne savez pas, et vous ne saurez jamais. Parce que juste, on a mis tout le monde mort du Covid pendant cette période-là. Donc déjà, vous en avez 12 000, vous ne saurez pas dire. Puis après, dans les 20 000 morts qui restent, les autres, ceux qui n'étaient pas en EHPAD, les morts hospitaliers, bah c'est pareil là, c'est difficile à dire qui est mort du Covid ou pas parce qu'il y a une espèce de consigne et de folie consistant à dire que tout le monde était Covid à ce moment-là. Il y a des gens qui rentraient avec des problèmes de rein, on disait qu'ils étaient néphro-Covid. Des gens qui rentraient avec un problème de cerveau, on disait qu'ils étaient neuro-Covid. Des gens avec un problème de cœur, on disait qu'ils étaient cardio-Covid. Et donc, tout le monde est marqué mort du Covid. Mais ce n'est pas vrai. Alors, comment on peut faire pour voir ça? Au niveau, nous, on a des mathématiciens qui travaillent là-dessus au sein du collectif. On a de la chance, on a vraiment un pool de gens qui ont des outils voilà, mathématiques, philosophiques et autres, et qui essayent de redonner de la lisibilité là-dessus. Mais il semblerait que la surmortalité soit extrêmement faible, en fait, sur 2020, qu'il n'y en ait presque pas. Parce qu'en plus, d'année en année, la mortalité, elle monte déjà, puisqu'on est de plus en plus nombreux, etc., puisqu'on est de plus en plus malade globalement. La mortalité, elle monte déjà tendanciellement d'année en année. Donc, c'est un peu difficile de comparer 2020 à 2015 déjà, parce que la mortalité a pas mal changé. On compare à 2017 souvent et la grippe de 2017. Mais il se trouve qu'en termes de volume, c'est peu ou prou effectivement comparable. Ça, c'est difficile à entendre, parce que toute la journée, on vous dit « Oh là là, c'est la fin du monde, c'est Ebola, on va tous mourir. » La transmissibilité du virus maintenant. Je vous propose de considérer que quand un prestidigitateur vous claque dans les doigts ici, en fait, il est en train de vous faire les poches de l'autre côté. Et bien là, c'est un peu pareil. On vous focalise sur les masques toute la journée. On vous met des amendes très lourdes pour les masques. On vous fait être suspicieux vis-à-vis de votre voisin, etc. Mais il se trouve qu'on a une équipe qui s'appelle Comet à Marseille et qui est une équipe de marins-pompiers chercheurs qui cherche sur la transmission du virus et qui s'intéresse à l'eau, aux eaux usées et qui arrive à trouver les clusters épidémiques 10 jours avant les autres dans les eaux usées et dans les surfaces. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une grande partie de la transmission se fait par l'eau et se fait par les mains. Et que plutôt que de vous emmerder avec les masques, même s'il y a une partie qui est aérosolisée, hein, je ne vous dis pas que c'est rien, mais il y a une grande partie qui est par les mains. Et ça, historiquement, je veux dire, on a du recul. Les maladies transmissibles, c'est par les mains, c'est Semmelweis, quoi. C'est se laver les mains. Vous pouvez prendre déjà ça comme premier conseil. Lavez-vous les mains, en fait, plus que de faire chier tout le monde avec les masques. Parce que le masque, c'est en grande partie une imposture. Déjà, le masque pour les enfants, ça n'a aucun sens. C'est une espèce de perversion dégueulasse. Les enfants de 6 ans à 12 ans, à 10 ans, ils sont pas malades, ils sont pas vecteurs, ils sont pas réservoirs. Pourquoi est-ce qu'on les force à mettre des masques? Il y a une espèce vraiment de perversion, à mon sens. Quelque chose qui est du domaine quasiment psychiatrique de la part du gouvernement et du conseil scientifique. Parce que, par contre, ils en font des effets secondaires majeurs. Ils ont mal à la tête, ils font des tombes dans les pommes. On en reparlera après des effets collatéraux de la politique sanitaire. Mais il y a des effets collatéraux de cette politique qui sont majeurs. Mais sur les masques déjà eux-mêmes, en population générale, vous pouvez vous dire, ouais, d'accord, je suis ni pro ni anti-masque. Je suis pas pro.
En direct.
Quelqu'un veut parler, non?
Non, je crois que c'est quelqu'un qui vient de se connecter et qui n'avait pas débranché son micro. C'est quelqu'un qui vient de se connecter et qui n'avait pas débranché son micro.
Ouais. Donc, les masques, en fait, vous pouvez considérer qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre. En fait, c'est comme si vous étiez pour ou contre un caleçon, quoi. Enfin, Non, ça dépend en fait. Ça dépend comment on l'utilise. Comment... faut plutôt le voir comme un traitement. Un traitement dont l'objectif thérapeutique, ce serait de diminuer ce fameux R0 et de diminuer la tension sur les réanimations et sur l'hôpital. En fait, il y a plein d'autres facteurs sur la tension, sur la réanimation et sur le R0. Il y a plein d'autres façons de faire. Mais OK, pourquoi pas? Ben dans ce cas-là, c'est comme tous les traitements. Il y a un schéma thérapeutique avec une dose. Et puis, vous allez regarder les effets secondaires positifs, ben les effets positifs, les effets négatifs. Puis, vous allez à la fin faire une espèce de balance de ce qu'on appelle le bénéfice et le risque pour voir est-ce que ben vraiment ces masques dans la rue, c'est utile. Il se trouve que les masques dans la rue, déjà, c'est infaisable correctement. C'est-à-dire que si vous voulez mettre ces masques chirurgicaux correctement, parce qu'effectivement, avoir un masque chirurgical, ça diminue le R0, c'est vrai. Ça diminue le nombre de personnes que vous allez infecter si vous êtes infecté. Encore faut-il l'utiliser correctement, c'est-à-dire qu'un masque, normalement, au bout de 4 heures, c'est flingué. Parce que là, c'est si je vous dis, allez-y, prenez un masque, gardez-le pendant 3 semaines, c'est le même avec lequel vous allez au marché tout le temps, etc. C'est comme si vous crachiez dans votre masque, vous dites, allez, mets-le sur la figure, il n'y a pas de problème. Vous allez me prendre pour un fou, en fait. Vous allez dire, c'est pas un médecin, lui, il cherche à me rendre malade. On n'est pas fait pour réinhaler nos miasmes en permanence, quoi. L'autre chose, c'est que normalement, si vous le jetez quelque part, il faut le jeter dans ce qu'on appelle une poubelle d'Asserie. Poubelle d'Asserie, c'est-à-dire qu'elle doit être incinérée. Si vous le jetez par terre, tout ça, ou dans une poubelle normale, en fait, vous allez juste traîner du masque. Et comme je vous ai dit qu'il est véhiculé par les surfaces et par l'eau, ben, en fait, il va se propager encore plus, quoi. Donc, ça va pas. L'autre chose, c'est que si vous êtes dans la rue et que vous croisez personne, bah, en fait, ça sert à rien. Vous risquez pas d'être contaminé, quoi. Donc les gens qui ont le masque dans la voiture ou qui ont le masque dans une rue déserte, non, le masque là, il sert pas à diminuer le R0. Il est contraphobique peut-être. Peut-être que vous en avez besoin pour avoir moins peur, mais il sert sûrement pas à endiguer l'épidémie. L'autre chose, c'est qu'endiguer une épidémie, comme je vous ai dit, c'est débile. En fait, on peut pas endiguer une épidémie. C'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos bras, quoi. La marée avec vos bras. Non. De toute manière, ce virus va circuler. Donc en fait, l'autre chose, c'est est-ce que c'est faisable? Parce qu'un traitement, vous le donnez à quelqu'un, mais il n'arrive pas à suivre. Il ne le prend pas de toute manière. Ben, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté au patient. Et moi, en tant que médecin, quand j'ai un traitement qui n'est pas adapté au patient, je vais pas dire c'est la faute du patient, c'est parce qu'il est bête, parce qu'il est nul, parce qu'il ne sait pas prendre son traitement et parce que c'est un irresponsable qui ne pense pas aux autres. Non, je vais juste dire ben, mon traitement, il n'est pas adapté, il faut que je trouve une autre façon de le donner, quoi. Faut que je sois plus subtil, que je fasse un lien, une alliance avec le patient pour essayer qu'il ait une bonne adhésion au traitement. Alors que là, c'est l'inverse. Les gens qui font pas, on leur dit, vous êtes coupables, des salauds, vous pensez qu'à vous, quoi. Bon, et puis le bénéfice attendu, ben, en fait, il y a l'expérience, c'est pas la réitération 40 fois de la même erreur. Normalement, on évalue l'efficacité de ce qu'on fait. Est-ce que les masques ont été efficaces? Bah non. La réalité, c'est non, puisqu'on est dans une deuxième épidémie et que on a encore plein de malades en réa. Donc le constat, c'est ça devrait dire ça sert à rien. Ah non, le constat du gouvernement, c'est dire non, non, c'est pas assez. On va masquer les enfants. C'est des tarés, quoi. Non, à l'évidence, non. C'est pas la bonne cible, en fait. Donc il y a un moment, vous devez juste avoir un retour critique sur ce que vous faites. Le gouvernement n'en est pas capable. Il n'est pas capable de l'entendre non plus, qu'il empêche les gens de le dire et les médecins de le dire. Donc le masque sert à autre chose. Le masque sert de ticket d'entrée sociale. Donc les gens qui se cramponnent au masque, souvent, bah, c'est parce qu'ils ont peur pour leur mémé ou leur pépé. Mais en fait, il ferait mieux de donner un FFP2, c'est-à-dire un vrai masque qui protège bien. C'est des masques de canard, vous savez. Ceux-là, ils protègent bien. Et on ferait mieux de donner un FFP2 aux gens fragiles. Et là, peut-être qu'on referait société différemment. Peut-être qu'on verrait les petits vieux avec un masque FFP2 d'un coup dans le bus. Eh bien, les gens, ils leur feraient une place. Ils diraient, ah, excusez-moi, asseyez-vous, bien sûr, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils nettoieraient la rambarde avec du gel hydroalcoolique pour prendre soin des gens. Et qu'enfin, on reprendrait soin les uns des autres. Alors que là, c'est tout le monde a peur les uns des autres. Et donc, c'est une façon dégueulasse de faire société, qui disloque la société. Donc, ce masque, c'est vraiment ultra toxique, en fait. Et là, je ne vous parle pas des effets secondaires, même sanitaires. Je vous en ai parlé un peu. Vous crachez dans le masque, vous le gardez, vous allez finir par être malade, en fait. Vous allez affaiblir vos défenses immunitaires. Si je vous dis la quantité de gaz carbonique qu'il y a dans le masque, ben en fait, elle est proprement époustouflante. Si je vous dis le niveau de relation humaine avec un masque comme ça, toute la journée, ouais, vous discutez avec des gens qui sont comme ça, mais en fait, l'humain, il n'est pas fait pour ça. Relisez Lévinas, Emmanuel Lévinas, c'est un philosophe qui parle du visage de l'autre. Il dit que la rencontre des visages, c'est ça qui nous fait être humain. C'est pas ce que on voit l'autre et qui est, c'est une sorte de miroir à la fois de joie, de tristesse, qu'on est sensible à ça et qu'on peut avoir des égards pour l'autre et en prendre soin. Et que si on ne voit pas son visage, en fait, on est dans une espèce de relation impersonnelle où on peut laisser libre cours à la violence, à la cruauté, à la méchanceté. Et en fait, vous le voyez au quotidien. Il y a des gens qui se trouvent pris dans le fait de devenir des petits capots en charge de défendre la politique sanitaire, alors qu'ils ne savent même pas, en fait, au niveau... Et quelque part, je ne leur en veux pas, parce que les gens qui s'accrochent à ça, je pense que d'une part, ils ont peur. Et ils ont peur pas forcément du virus. Là, je vais en arriver à la problématique de la peur. Juste avant d'en arriver à la peur, je voudrais vous dire une dernière chose sur le côté scientifique, on va dire. C'est les effets du confinement. Le premier confinement a été en fait une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a démontré que ça avait freiné le R0 et l'épidémie. Il a été fait au moment du pic épidémique pour Paris, pour le Grand Est et pour le Nord. À Marseille, il a été fait juste avant. C'est vrai que nous, on a eu l'accélération exponentielle après le confinement. Mais en fait, il a été fait au moment où, de toute manière, ça allait diminuer. Donc, on ne peut pas savoir si c'est le confinement ou si c'est naturellement l'épidémie allait diminuer. Et c'est plutôt naturellement que l'épidémie a diminué, puisque le confinement a plutôt démontré dans certaines études qu'il augmentait le nombre de clusters intrafamiliaux. C'est-à-dire que vous avez laissé ensemble des gens malades et pas malades, et qui se sont contaminés ensemble, ce qui est complètement débile. Dans toute l'histoire de l'épidémie, on confine les gens qui sont malades et les autres, on les laisse vivre, surtout. Donc, c'est une mesure idiote. L'autre chose, c'est que c'est pareil en termes de risque, de la balance des bénéfices et des risques. Bah, le confinement, c'est quelque chose qui a mis à genoux votre économie, qui a tué votre jeunesse, qui a fait que les artistes n'ont plus de travail, que vous êtes endetté pour l'éternité. C'est pas bon d'être endetté pour l'éternité pour un État ou pour des gens. Sinon, ça donne comme la Grèce, en fait, après 2008. Hein. La Grèce, maintenant, les femmes, elles se prostituent. Les îles, elles sont vendues à des oligarques russes et chinois et américains. C'est un pays qui est sinistré, en vrai, économiquement et socialement, par la dette. Donc, ils sont dans l'esclavage de la dette éternelle vis-à-vis, en gros, de la troïka européenne, qui ne sont jamais que les marionnettes des banques et des multinationales. Donc, ça, c'est difficile à entendre. Mais en gros, c'est pas parce que l'État dit on va vous prêter de l'argent, on va faire le chômage partiel, etc. C'est un jeu de dupes, en fait. C'est un braquage. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous braquer par de la dette éternelle, dont vous serez redevable à vie et dont vous serez les esclaves. Sans parler des effets sanitaires, c'est-à-dire que le confinement a induit le fait que des gens qui avaient mal dans la poitrine, bah, ils ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'ils ont dit non, il y a le Covid, j'irai plus tard. Et ils ont laissé passer des infarctus, c'est-à-dire des caillots de sang dans le cœur qui ont bouché le cœur et qui font que leur cœur maintenant est à la caisse, quoi. Ils ont un cœur qui ne pompe plus. Ces gens-là, s'ils étaient venus à ce moment-là, on leur aurait réouvert l'artère du cœur et ils auraient un cœur nickel. Ben maintenant, on a des insuffisances cardiaques terminales, non revascularisées, en très mauvais état. On a des gens avec des lymphomes, des leucémies qui ne sont pas venus, pareil. Ils étaient fatigués, ils avaient un ganglion là, mais ils ont dit oh, « non, ça va, il y a le Covid, j'irai plus tard ». Et puis parce qu'en plus, les services étaient fermés. Puisqu'on a mis tous les moyens pour le Covid. Et ben, ces gens-là, ils se retrouvent avec des formes, avec 3 à 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique, des formes qui sont devenues généralisées, beaucoup plus graves, en fait, que s'ils étaient venus tout de suite. Et donc, ça va moins bien se passer pour eux. Pareil pour les cancers du sein, les cancers de la vessie, les cancers de l'utérus, des gens qui ont dit « ouais, je saigne en bas, mais enfin, ça va, on va attendre un peu. » Et poum, ils se prennent 7 mois de retard. Ouais, ça c'est pas bon, hein, parce que on a vraiment fait du mal à notre société par ce confinement. Donc l'idée du reconfinement, c'est une idée saugrenue en vrai, hein. C'est une idée qui peut pas être suivie, quoi. Elle est basée sur des projections fantaisistes en fait en termes de mortalité. Macron, quand il vous fait son discours, dit va y avoir 400 000 morts si on fait rien. 400 000, d'où il les sort, de son chapeau. Il y a eu 32 000 morts, et je vous ai dit que c'était discutable, sur la première épidémie. La deuxième épidémie est à peu près globalement de même volume pour le moment, et dans la courbe qu'elle prend. Donc, bon, s'il avait dit 40 000 morts, allez, pourquoi pas. Mais il s'est gouré sur son prompteur, quoi. Il a mis un zéro de plus. Mais 400 000 morts, c'est fantaisiste, en fait. Ça ne veut absolument rien dire. C'est des projections qui ne sont pas du tout avérées scientifiquement, mathématiquement. Ça sort du chapeau, quoi. Donc, ça fait peur aux gens. Encore une fois, on fait peur aux gens. Réfléchissez bien dans toute cette histoire au nombre de fois où on vous fait peur et on vous met dans la culpabilité. Maintenant, je peux vous faire un point, un focus sur aujourd'hui ce que je sais de cette épidémie. C'est que sur ce qui se passe, on est dans une deuxième épidémie en PACA. Et donc, il n'y a pas rien. Les gens qui ont dit qu'il ne va rien y avoir, c'est ce qu'ils disaient en août. Et en août, ils avaient raison. Il n'y avait pas de deuxième vague. Sauf que, et en septembre, ils avaient encore raison. Et c'est en octobre que ça s'est passé. Et cette deuxième épidémie, elle est très bizarre. C'est-à-dire, il n'y a aucune maladie infectieuse qui fait ça d'habitude, de revenir comme ça avec des variants aussi différents. Si vous voulez donner un nom précis à ce qui se passe actuellement à Marseille et en PACA, c'est une deuxième épidémie à SARS-CoV-2 variant 4. Variant 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gueule de ce virus, en termes de code génétique, est très différente du premier. Ça veut dire que ce n'est pas une dérive progressive du premier. C'est quelque chose d'assez différent, qui presque aurait pu s'appeler SARS-CoV-3 et qui sort de nulle part. Et ça, c'est bizarre. C'est à tout le moins bizarre. En tout cas, on devrait essayer de comprendre d'où ça vient scientifiquement, parce que effectivement, ce n'était pas prévisible. Et les gens qui l'ont prévu, je pense qu'il faut aller les voir. Parce que eux, mathématiquement, épidémiologiquement, scientifiquement, où est-ce qu'ils ont prévu qu'il y aurait cette deuxième épidémie ? J'aimerais bien savoir. Moi, voilà, j'ai besoin de comprendre. Pour le moment, je ne comprends pas. Et c'est à tout le moins bizarre. Donc, on est dans une deuxième épidémie à SARS-CoV-2 variant 4, très différent du premier. Très différent génétiquement. Ça veut dire aussi qu'en termes d'immunité, bah, il provoque assez peu d'immunité. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait une première infection à SARS-CoV-2 variant 1 et puis qui refont un COVID avec le SARS-CoV-2 variant 4. Donc, ils se font deux COVID. Mince. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous filez ça, c'est-à-dire que l'immunité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaccin possible, en fait. Donc, quand on vous fourgue un vaccin à la fin de chaque phrase, ce n'est pas vrai, scientifiquement. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Ou alors, on vous fourgue autre chose. Et c'est pas d'être anti-vax. Le problème, c'est que moi, on va dire, il est anti-vax. Je suis pas anti-vax, je m'en fous en fait. J'ai pas d'action chez les vaccins pour ou contre. En fait, chaque vaccin est différent. Il faut l'évaluer avec ses bienfaits, ses méfaits. Sauf que là, quand on vous fourgue un vaccin là-dessus, ouais. C'est-à-dire que là, à la fin de chacune de ces phrases, que ce soit Véran, que ce soit Castex, que ce soit Macron, en fait, finit par, de toute manière, vous ne serez libéré qu'en en juin 2021, quand il y aura un vaccin. Ça, c'est ce qu'on appelle des concaténations hypnotiques, c'est-à-dire ils essaient de vous mettre ensemble des concepts qui n'avaient rien à faire ensemble et qui en plus ne sont pas avérés. Donc, attention, méfie, comme on dit à Marseille, quand on vous prédit l'avenir et qu'on vous dit il va y avoir un vaccin et c'est ça votre clé pour sortir, d'où ça sort ? D'où ça sort d'autant plus que le principal vaccin en lice, il y a une dizaine de vaccins en lice à peu près, hein. Il y en a un qui est marrant, celui qui a le plus de fonds, en fait, de partout, qui est le vaccin d'une boîte qui s'appelle Moderna. Et Moderna, c'est un vaccin à ARN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un vaccin, habituellement, on prend des petits morceaux de virus et puis on les met avec quelque chose qui permet d'activer la réaction inflammatoire, un adjuvant, ça s'appelle, pour que vous fassiez une réaction à ça. Sauf que ça coûte très cher de faire ces petits morceaux de virus. Il y a des gens qui ont eu une idée intelligente au niveau scientifique, c'est une pirouette assez élégante, on va dire. Ils se sont dit, plutôt que de mettre des petits morceaux de virus, on va mettre des petits morceaux de code génétique. Et en fait, c'est le patient à qui on va injecter le virus, le vaccin, pardon, c'est le patient qui va fabriquer lui-même le virus. Ah ouais, c'est très malin, parce que là, ça ne coûte rien. Parce que faire de l'ARN, ce n'est pas cher du tout. Sauf que, en fait, si je vous injecte un petit morceau de code, et que j'espère que dans vos cellules, vous allez fabriquer du virus. Bah, pourquoi pas ? Mais je joue à l'apprenti sorcier au départ, parce que je ne sais pas combien vous allez en produire. Est-ce que vous allez en produire très peu et ça ne va servir à rien ? Est-ce que vous allez en produire beaucoup et être malade tout le temps ? Est-ce que vous allez en produire juste ce qu'il faut et vous immuniser ? Bah, en fait, c'est un jeu d'apprenti sorcier. Donc, à l'évidence, il ne faut pas être dans la première cohorte de vaccinés, parce que là, vous êtes du bétail sur lequel on est en train de tester un truc qu'on n'a jamais testé avant. C'est-à-dire que cette technique-là, dont je vous parle, elle n'a jamais été testée avant. Et il se trouve que les vaccins ont une législation très particulière, à deux niveaux, qu'il faut que le grand public connaisse. Parce qu'en fait, les vaccins, il y a vraiment un problème d'argent et de conflit d'intérêts. La première chose, c'est qu'ils ne sont pas tenus de faire une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et que donc, ils n'ont pas les mêmes séquences de recherche avant d'en arriver au produit fini qu'on injecte à l'homme. L'autre chose, c'est que ces mêmes firmes vaccinales se sont arrangées dans un contexte épidémique pour dire « Oh là là, c'est vraiment très urgent, donc on peut chinter certaines étapes de sécurité. » Non, il ne faut pas chinter les étapes de sécurité. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est qu'ils ne suivent pas le même développement qu'un médicament. Le deuxième point, c'est qu'en termes de remboursement des effets secondaires, les États-Unis puis l'Europe, vous avez compris que j'ai quelque chose contre l'Europe et je ne m'en cache pas. Je pense que l'Europe néolibérale mondialisée actuellement, telle qu'elle est formulée, n'est pas favorable aux gens, en fait. Nous amène pas à la paix, ne nous amène pas à la prospérité. Je pense qu'elle est en fait une porte d'entrée, un guichet unique pour les multinationales et qu'elle défend une idéologie néolibérale mondialiste avec laquelle, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais on peut être d'accord avec et ça me va. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, on discutera, quoi. Il se trouve que on a à peu près tous les mêmes lois qui arrivent depuis les États-Unis à 5 ans d'échéance et qui, par le biais de l'Union européenne, sont ensuite retranscrites en droit français. Et vous n'en entendez pas parler. Et il y a plein de lois, vous ne voudriez pas les avoir. Par exemple, vous ne voudriez pas du Roundup, vous en avez quand même. Il y a 85% des Français qui ne veulent pas de Roundup dans leur agriculture. Ça fait 15 ans que vous en avez quand même. Ah, et ça se passe à Bruxelles. Hein. Je peux vous le dire pour avoir bien suivi ces débats-là. Vous ne voulez pas de viande qui vient d'Amérique du Nord ou qui vient du Mercosur parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et qu'en plus, vos agriculteurs français, en fait, il y a besoin qu'ils vivent, en fait. Et donc, il n'y a pas de raison de faire du dumping social et fiscal en allant chercher la viande qui vient d'ailleurs. Et vous en aurez quand même. Ça, c'est le CETA et le Mercosur par le biais de l'Union européenne. Et c'est pareil pour les vaccins. Vous aimeriez qu'il y ait un remboursement des effets secondaires qui soit assumé par les firmes vaccinales. Ma foi, elles font tellement de bénéfices, de dividendes, un pognon de dingue, comme dirait l'autre, qu'elles devraient au moins payer pour les saloperies qu'elles font aux gens. Non. C'est un fonds national qui va verser les sous pour les effets secondaires des vaccins. Ça veut dire c'est vous et moi sur nos impôts. Et ça veut dire quoi au-delà de ça?
Parce que...
On va toujours faire semblant que c'est au nom de la solidarité nationale. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les firmes vaccinales n'ont pas de sanctions s'ils font des trucs qui ne sont pas bien. Il n'y a personne qui leur dit « en fait, vous avez payé pour les saloperies que vous faites ». Donc, ça veut dire que dans leur process de fabrication de vaccins, ils s'en foutent. En fait, pour eux, c'est juste un bargain économique, quoi. Voilà. Donc, on a un problème avec les vaccins systémiques, comme je viens de vous l'expliquer, puis on a un problème spécifique. Mais bon, il y a des vaccins qui sont utiles quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas univoque, hein. C'est pas blanc ou noir, comme d'habitude. Hein. Enfin, sur le système lui-même, il est pourri jusqu'à l'os. Hein. Et on a un problème avec les vaccins dans cette histoire, parce que le virus est un virus à ARN qui mute énormément, ou en tout cas, les variants ils sont trop différents des premiers pour espérer que… Parce que quand on vous vaccine, on prend la souche d'il y a 3 mois. Si on vous vaccine avec la souche d'il y a 3 mois, là, ça ne marche pas, par exemple. Donc, on va vous vacciner tous les 3 mois. Vous allez être comme du bétail, un vaccin dans le cul tous les 3 mois pour espérer survivre. Ce n'est pas un futur très enviable. Et en plus, ce n'est pas prendre soin des gens. Mais dès que vous dites ce que je viens de dire, vous êtes catalogué par les médias mainstream comme anti-vax. Encore une fois, je ne suis pas ni anti ni pro-vax. Je suis pour qu'on utilise les mots à bon escient. OK, donc on a parlé... des vaccins, etc., de l'épidémie. Et donc, j'étais en train de vous dire que cette deuxième épidémie, à variant 4 du SARS-CoV-2, elle fait, déjà, si vous ne pouvez pas suivre le nombre de cas, ce qu'on appelle les cas, parce que les cas, comme je vous ai dit, c'est juste le nombre de tests positifs, et ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, vous pouvez suivre le nombre de décès. Mais il faut le suivre à une échelle où vous arrivez à appréhender un peu ce que ça veut dire. Donc, moi, je vais vous donner en PACA ce qui se passe. En PACA, on est actuellement... à environ 500 lits, presque 500 lits de réanimation qui sont pleins de gens avec un SARS-CoV-2 positif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous Covid, mais il y en a beaucoup qui sont Covid. Et ils ont le virus où ils s'en sont débarrassés. Et ils ont une maladie qui est cohérente avec le SARS-CoV-2, ça c'est une grande partie d'entre eux. Puis il y en a une petite partie, ils sont marqués Covid, mais en fait ils ont un lymphome, une leucémie. Ils viennent pour une pneumonie bactérienne. Mais on a trouvé du virus, alors on les met Covid. Donc là, déjà, c'est une imposture. Parce que ceux-là, non, ils ne sont pas Covid proprement dit. Ils sont SARS-CoV-2+. Mais ils comptent dans les Covid, dans les stats. Mais bon, mettons. Donc, on a 500 lits de réa qui sont pleins sur PACA, sur 5 millions d'habitants. Donc, vous avez 500 patients sur 5 millions d'habitants, ça reste correct, on va dire. Mais il se trouve qu'on a un problème de lit et de système de santé. Parce que, effectivement, de base, on a 500 lits à peu près de réanimation sur tout PACA. Donc, en fait, on a les réanimations qui sont pleines. Et ça, pour... comment on fait face à ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a une surcharge sur le système de santé, mais une surcharge qui n'est pas majeure. Comme je vous dis, c'est 500 personnes, quoi. C'est pas sur 5 millions, quoi. On n'est pas sur des chiffres fous. Et en plus, dans ces 500 personnes, le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité au sein des malades qui sont en réanimation, il est de 14%. C'est-à-dire qu'il y a 14% des gens qui rentrent en réanimation qui vont mourir. Ben, ce n'est pas très haut pour nous. Peut-être ça vous paraît haut, mais en fait, nous, en réanimation, les taux de létalité auxquels on est habitué, c'est plutôt 35-40%. Donc pour nous, ce n'est même pas une maladie très grave. C'est une maladie qui est longue et un peu pénible à traiter parce qu'elle garde les lits. Les gens, ils restent des fois 3 semaines, 1 mois en réanimation, alors que pour d'autres maladies, ils restent 1 semaine ou 2. Donc, c'est une maladie longue et lente et qui met en tension le système de santé. Il le met en tension parce que effectivement il y a un choc extérieur, mais surtout parce que le système n'est pas résilient, il n'est pas plastique à s'adapter au moindre choc. Or ce choc, il n'est pas très fort, il est un peu voilà. Mais il n'est pas plastique. Le système de santé, il est comme une bouteille en fait qui se remplirait et puis qui se viderait. Et puis il faudrait que la bouteille, si ça se remplit trop vite, elle puisse être un peu élastique, quoi, comme un ballon de baudruche, mais elle l'est pas du tout. Elle est comme, au contraire, une bouteille en verre qui n'est pas du tout capable de s'adapter. Elle n'est pas du tout capable de s'adapter parce que ça fait 15 ans que le système public, on le met au tapis. Que la même idéologie néolibérale mondialiste européenne donne des directives aussi au ministère de la Santé et au gouvernement pour dire bah, il faut que vous dégraissiez le mammouth, il faut que vous fermiez des lits, il faut que l'hôpital public, maintenant, c'est gentil, mais ça va s'arrêter en fait. Et donc, le projet, notre projet, vous l'entendez en fait dans les discours et dans tous les textes officiels, c'est de faire de l'hôpital public un dispensaire pour migrants et gens pauvres. Et par contre, les hôpitaux semi-privés, ah, on ne va plus dire privatiser, hein, maintenant c'est privé-public, c'est des partenariats, parce que dire privatiser, ça ne fait pas chic. Hein. Donc, on va dire les partenariats publics-privés, bah, eux, ils vont recevoir les mannes publiques pour que ce soit eux qui fassent la belle médecine des gens riches. Bah, ce système-là, il est à l'œuvre depuis 15 ans. Et on en est à moins 69 000 lits sur les hôpitaux publics. Je ne vous parle pas de réa, hein, je vous parle de lits d'hospitalisation. En 15 ans, on a enlevé 69 000 lits en France. Et après, on dit « Ah, le système est saturé bah, !» Tu m'étonnes, ce n'est pas nouveau. Et au-delà des lits, c'est les humains qu'on a enlevés. Parce que comme on a dit, il faut faire le grand virage numérique. La santé de demain, c'est la santé numérique avec de l'intelligence artificielle, des applications. On a investi massivement. Et je peux vous dire qu'on en a des ordinateurs. Hein. Par contre, des aides-soignants, des gens qui font le ménage, des infirmiers, des médecins, ben ça, on a du mal à en trouver. Quoi. Et c'est normal, c'est volontaire en fait. Puisqu'on a dit, c'est ça qui coûte cher, c'est les humains. Mais c'est une logique de la rationalité de l'argent en permanence. C'est parce qu'on veut toujours optimiser les coûts, etc., qu'on en arrive à ces extrémités folles, en fait. Mais la réalité, c'est qui est-ce qui soigne les gens ? C'est pas les ordinateurs. C'est les gens. Ce qui est profondément thérapeutique, c'est le lien, c'est l'humain. C'est les aides-soignants qui vont torcher les malades au sens propre, éviter qu'ils aient des escarres, leur prendre soin d'eux, leur apporter à manger, les aider à manger quand ils ont du mal. C'est eux qui soignent. Si vous pensez que c'est des ordinateurs, vous avez tout faux. Les gens, ils vont baigner dans la merde avec des escarres et ils vont mourir. Donc, c'est se tromper, encore une fois, c'est prendre le mauvais bout du problème. Donc, l'hôpital public, il n'y a pas assez de soignants et il n'y a pas assez d'argent pour les soignants. Et je vous donne un exemple, une anecdote. Il y a 2 semaines, en fait, j'ai fait une place pour prendre des gens en réanimation la nuit pendant une garde. Et puis, il n'y avait pas d'ASH, il n'y avait pas de personne pour faire le ménage. Les ASH, c'est les gens qui font le ménage à l'hôpital. Et bien, il n'y en avait juste pas. Et c'est-à-dire que la chambre, elle est restée inutilisable pendant 16 heures, 2 fois. Alors qu'on nous dit qu'on est en tension et qu'on fait chier les gens pour qu'ils mettent les masques, qu'on culpabilise les restaurateurs, qu'on culpabilise les gens en permanence en disant « c'est votre faute si les réanimations sont en tension ». Ben juste là, il n'y avait pas d'ASH, quoi. Et donc, ce n'est pas votre faute, hein. Il y a plein de dysfonctionnements. Et l'autre chose, c'est qu'au-delà des dysfonctionnements, vous avez un système qui n'est pas plastique parce qu'il est technocratique et administratif. Ce n'est pas tout à fait la même chose en Allemagne. En Allemagne, ils sont capables de déployer des lits de réanimation de manière beaucoup plus efficace que nous. Nous, on est en train de le faire et l'assistance publique fait très bien. Je veux dire, honnêtement, là-dessus, ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, mais un peu avec des bouts de chandelle et puis un peu à ressources constantes, quoi. Parce que le problème, c'est que si vous déployez des lits de réa, mais pour fermer des lits de chirurgie ou des lits de médecine, c'est pareil, vous prenez la proie pour l'ombre. Vous êtes en train de faire la même chose qu'au premier confinement. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont des infarctus, des cancers, des trucs qui ne seront pas soignés. Et il y en aura beaucoup plus que de gens qui sont morts du Covid. Et c'est déjà le cas en Angleterre. L'évaluation du nombre de morts hors Covid, c'est-à-dire des effets collatéraux du Covid, mais pas du Covid, elle est plutôt à 300 000 morts. Alors que le Covid, en France, on est à 32 000 morts. Donc la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'effets collatéraux sanitaires, mais pas que sanitaires, on y reviendra si vous voulez. Donc on est en train de prendre la proie pour l'ombre. On vous focalise sur quelque chose, on vous maintient le regard complètement comme ça sur les courbes épidémiques du Covid. Mais la réalité, elle est beaucoup plus ample et complexe que ça, en fait. La réalité, c'est qu'il faut continuer à soigner les cancers, qu'il faut continuer à soigner les maladies habituelles. Et que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des gros effets secondaires. Et qu'arrêter la vie, il faut continuer à laisser bosser les TPE, les PME, parce que tous ces petits patrons, c'est eux qui font le tissu de notre existence. Ce n'est pas Jean-Marie Messier, ce n'est pas Dominique Arnaud, là, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas les gens des multinationales qui font le tissu de notre réalité. Eux, ils nous vendent des trucs par Internet, quoi. Mais voilà. Donc, l'autre jour, j'étais sur un plateau télé, et on écoutait les annonces de Macron, j'avais un peu la mâchoire serrée, quoi, en colère d'entendre le reconfinement. Et il y a la commerçante qui avait à côté de moi, elle avait deux magasins, et puis elle faisait partie d'un syndicat de commerçants. Puis elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, je vais crever, quoi. Et après, elle a dit à l'antenne, elle a dit, mais si je comprends pas, pourtant on a fait tout ce qu'on nous a dit, et on est quand même puni. Et là, je me suis dit, tiens, ça a fait tilt dans ma tête, en fait. C'est comme les enfants battus. Tant qu'ils ne se rendent pas compte de qui leur bourreau, ils continuent à se faire taper dessus. Et ils se font taper dessus pour pas un rond, quoi. Et chaque fois qu'on lève le bras comme ça sur eux, ils vont rester dans un coin tapis, même s'ils n'ont rien fait. Ils vont penser que c'est leur faute. Ouais, c'est parce que j'ai mal laissé traîner mon cartable, etc. Mais ce n'est pas ta faute, en fait. La réalité, c'est qu'il y a un bourreau. Il y a quelqu'un qui te tape dessus, quoi. Parce que et c'est là, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir regarder ça en face. Notre gouvernement ne veut pas notre bien. Les élites de notre pays ne veulent pas notre bien. Ils veulent, et c'est toujours la même chose dans l'histoire de l'humanité, l'argent et le pouvoir. Ce que je vous ai dit au début. Il y a trop de conflits d'intérêts dans toute cette histoire du Covid. C'est extrêmement nauséabond, mais je pense qu'il y aura des procès, comme il y a eu des procès de Nuremberg. Il y aura des procès après le Covid où des têtes tomberont, et ce sera très bien. Et je pense qu'actuellement, on est dans un... Peut-être je vais vous laisser la parole, ça fait longtemps que je parle déjà. Peut-être. Tu me dis, hein, Jean-Pierre, si... Je ne me rends pas compte, en fait. Hein. Parce qu'il y a tellement de sujets, c'est tellement vaste, ça dit tellement de choses de notre société, cette histoire. Mais je pense qu'actuellement, on est dans ce que j'appelle moi et ce qu'appelle Ariane Bileran un déferlement totalitaire. C'est-à-dire, c'est pas forcément volontaire. C'est-à-dire que petit à petit, tout le monde est pris dans une espèce d'énorme vent, d'énorme bourrasque de Mistral, où il est emporté comme un fétu de paille. Et donc, les gens, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent pour essayer de tenir. Il y en a, ils se raccrochent à la narration gouvernementale, même si elle est fausse, alors que c'est eux qui sont en train de souffler. Ils se raccrochent à ça parce qu'ils se disent, si j'ai pas ça, mais comment je fais encore société? Je vais être tout seul, perdu dans le déferlement. Mais de toute manière, ils vont être emportés. Et on va tous être emportés dans ce déferlement totalitaire. Il y a, à mon sens, rien qui va l'arrêter. Parce qu'on arrive au bout. On arrive au bout d'un cycle où ce déferlement totalitaire, il est, entre guillemets, nécessaire pour montrer des choses qui avaient toujours été là, mais qu'on n'arrivait pas à voir. Qui est le niveau de corruption de nos élites, le niveau de corruption systémique de la santé, de la publication scientifique, le niveau de corruption des laboratoires pharmaceutiques, le niveau de destruction du nous induit par la politique néolibérale mondialiste, qui fait que nos sociétés en fait, sont complètement délitées. Et en fait, il y a un moment où ça doit arriver au bout, parce qu'en fait, la crise, c'est comme une maladie. La crise, c'est une occasion de résoudre. Mais là, il y a deux chemins, enfin trois chemins. Et à suivre la narration gouvernementale et la narration internationale même sur ce sujet, C'est-à-dire, en gros, aller, accepter d'aller vers une société où vous êtes contrôlé de tous les côtés, où vous êtes pucé, où on met un vaccin dans les fesses tous les 3 mois, où il y a des drones qui vous surveillent, où il y a des caméras qui font de la reconnaissance faciale pour savoir si vous avez un masque ou pas. Et là, vous êtes vraiment dans une dystopie totalitaire au nom de la sécurité. Il y en a qui sont d'accord avec ça parce qu'ils ont tellement peur de mourir, ils ont tellement peur qu'ils préfèrent la sécurité. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord parce que c'est l'histoire du chien et du loup, hein, de La Fontaine. Je l'ai un peu en mémoire, j'ai pas envie de me tromper en vous la récitant, mais si vous vous en souvenez, c'est l'histoire de ce chien qui est gras, voilà, mais qui est en sécurité, mais qui a un collier autour du cou et qui n'est pas libre. Et le loup, lui, il est hâve, il court dans la plaine et il a que la peau sur les os, mais il est libre. Et bah, le chien lui propose de venir avec lui. Et le loup dit, ah, qu'est-ce qu'il me faut faire? Non, rien, presque rien, juste rien. Juste à votre maître complaire, ce contre quoi vous aurez force caresse, les mains relief de toutes les façons. Enfin, voilà, on va aller la regarder après, quoi, le chien et le loup. Et puis d'un coup, sur le chemin, alors qu'il part pour aller vers chez le maître avec le chien, qui se dit, ah, chouette, je vais pouvoir manger à ma faim, enfin, et être en sécurité, ne pas errer dans les bois. Et ben, il voit le collier du chien, quoi. Et il dit, mais c'est quoi ça? Et le chien dit, ah, rien, presque rien, voilà, juste pas être libre. Et le chien dit, ok, il s'en va. Et Maître Loup court encore. Donc vous avez cette voix-là du chien qui espère être gras, etc. Mais c'est pas vrai. En fait, il sera un esclave. Et il sera un esclave de gens cruels et brutaux et violents qui passent leur temps à vous taper dessus ou à faire semblant de vous taper dessus. Hein, je vous ai confiné, hein. Alors attention, si vous ne faites pas ce que je dis, vous serez reconfiné, hein, qui vous donne des choix illusoires, hypnotiques. Ah ben c'est confinement ou couvre-feu, hein. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Hein. Bah si, peut-être qu'il y a encore une autre voie. Réfléchissez à cette phrase. Quoi qu'on vous dise et quelle que soit la dualité qu'on vous donne, proposez cette idée qu'il y a toujours au moins une autre façon de faire. Il y a toujours au moins un autre chemin. Bah là, sur la politique sanitaire, je vous assure qu'il y a au moins plein d'autres chemins. Et je peux vous en proposer à la fin de mon exposé. Les deux autres voies que je vois venir sont face à ce déferlement totalitaire et de brutalité sociale en fait et juridique, etc. Voilà, on est en train de passer des lois à 30 députés à 3 heures du matin. La loi de bioéthique, c'est du délire, hein. C'est une loi qui concerne absolument tout le monde. Et il y a 30 députés en marche qui la votent à 3 heures du matin. Mais c'est un scandale en fait démocratique, quoi. On ne devrait pas laisser faire ça, on doit être dans la rue. Thank you.